Qu'est-ce qui mesure 11,5 mm d'épaisseur seulement et dans lequel Apple n'a pas mis de ventilateur ? Oui, le MacBook Air 15 pouces M2, l'un des portables les plus fins jamais conçus. À San Francisco, une start-up a réussi à caser un système de ventilateur piezo dans un MacBook Air M2 15 pouces. Et ça change pas mal la donne, à tel point qu'on va se demander pourquoi Apple nous prive d'une puissance supplémentaire non négligeable. Rich Communication Service, plus connu sous l'acronyme RCS, Apple a e-message, mais pour le reste du monde, RCS c'est déjà le successeur des SMS et MMS. Apple a fini par céder en annonçant son arrivée dans message courant 2024. Alors, petite ou grande révolution, et qu'est-ce que ça va changer pour nous ? C'est le dossier de la semaine. Le journal de la semaine avec notamment cet objectif moitié prix pour la deuxième génération de Vision Pro, et on parle de 2025. Le test de la semaine, le retour, Fabrice a installé et testé la serrure connectée de chez Netatmo. On va déjà vérifier qu'il a réussi à rentrer chez lui après l'avoir posée pour enregistrer cet épisode. Et puis le bonus exclusif Patreon, cette semaine, retour sur, et oui, le Black Friday 2023 à rallonge. On va vous dire tout ce qu'on a acheté et avec quelle remise. Pour avoir le détail, ça se passe sur patreon.com/iWeek. iWeek, la semaine Apple, numéro 164. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à chacune et chacun d'entre vous. Je suis Benjamin Vincent, mardi 28 novembre, il est 18h21. Bonjour les amis, bonjour François Le Truidic.
Bonjour Benjamin Vincent et bonjour à tous. Excuse-moi, tu sais, j'ai perdu un peu l'habitude, donc j'allais oublier de rallumer mon micro et ça aurait pu créer un petit drame et j'aurais eu le droit de me faire fouetter sur la place publique une nouvelle fois.
Et dès la deuxième phrase, tu places le fouet. Ça m'étonne pas de toi. Sois le bienvenu, François. Ça fait plaisir de te retrouver, n'est-ce pas ? Salut, Fabrice Neumann.
Salut, mon capitaine. Salut à toutes et tous.
Ravi d'être avec toi aussi, tout guilleret, avec tes deux boucles d'oreilles blanches qui te vont tellement bien. Salut, Gilles Denès.
Salut, son capitaine. Comment vas-tu ?
Ben écoute, fort bien, ravi aussi que tu sois là, et puisqu'on est tous les quatre, on fait une bise à notre Ellie à Bitball qui s'est fait porter pâle aujourd'hui, et on commence tout de suite par la question de la semaine, pourquoi le MacBook Air M2 n'a-t-il pas de ventilateur piezo ? Eh oui, si on ajoutait un ventilateur dans un MacBook Air M2, ça semble difficile et pourtant à San Francisco, une start-up passait maître dans l'art d'intégrer des systèmes de refroidissement dits piezo, autrement dit très fin, l'équivalent d'une pièce de monnaie, a réussi à donc faire passer un ventilateur dans un MacBook Air M2. Cette start-up s'appelle Fror. Et à l'arrivée, le nouveau portable est nettement plus puissant, notamment avec les jeux intensifs, surtout quand on y joue longtemps, c'est-à-dire au-delà de 30-40 minutes, et que le MacBook Air normal se met à chauffer. La fluidité baisse, elle passe en gros de 28 à 22 images secondes, alors qu'elle reste entre 29 et 27 images secondes avec le AirJet, hein, c'est le nom de ce tout petit ventilateur. Donc, la conclusion, c'est que très clairement, sans ventilateur, Fror montre que le MacBook Air est vite diminué. Alors, c'est un article passionnant à lire chez nos confrères de The Verge et qui nous amène à nous poser des questions sur les choix et la stratégie d'Apple. Fabrice, c'est toi qui a remarqué cette enquête de The Verge. C'est assez étonnant la différence qu'on obtient avec ce petit système qu'Apple n'a pas mis dans son MacBook Air.
Alors, on pourra revenir sur les éventuelles raisons qu'on peut déterminer pourquoi, qui expliquent pourquoi Apple ne l'a pas fait. C'est intéressant parce que ça montre. On a tous été étonnés de voir les performances des processeurs Apple, même dans des machines qui n'ont pas besoin de ventilateur. C'était le cas donc avec les premiers MacBook Air M1, etc. Tous les tests ont montré quand même que si on pousse ces machines, et c'était notamment le cas avec le premier MacBook Air M2, donc à 13 pouces, si on les pousse à faire des travaux et des calculs à long terme, La puissance baisse un peu parce que le processeur chauffe. Donc, c'est un moment, le flux d'air qui ne se fait pas finalement, le refroidissement passe par finalement uniquement le fait que la caisse est en aluminium et que ça essaye de diffuser la chaleur plutôt que de la faire, de la faire circuler. Et c'est ça qui se passe. Et donc, il y avait déjà eu des vidéos et des tests, des youtubeurs qui avaient déjà fait des tests avec ça, en ouvrant le MacBook Air et en mettant un peu plus de pâte thermique à des endroits ciblés du MacBook Air M2. C'était surtout celui-là sur lequel on pouvait le démontrer. Et rien qu'en mettant ça, donc en facilitant le dégagement de chaleur, on voyait que sur des travaux demandant plus de 20, 25 ou 40 ou 30 minutes de calcul, le MacBook Air M2 était mieux capable de rester à sa puissance maximum pendant des temps de calcul assez longs. Donc voilà. Donc c'est une autre façon de faire que propose cette ou que en tout cas qu'a démontré cette entreprise, cette société, c'est qu'en mettant un petit système de ventilation qui n'est donc pas c'est pas un ventilateur avec des pales qui tournent, hein, y a pas la place. Hein, il faut peut-être expliquer ce que c'est. Enfin c'est vraiment quelque chose de très fin, mais avec un courant électrique, ça provoque une vibration qui est capable de faire circuler un flux d'air. C'est assez rigolo à voir et ça a l'air donc d'être assez efficace. Voilà, donc du coup, dans le contexte où il y a eu aussi la sortie du M3 qui a monté sa fréquence, une des manières pour le M3 d'être plus puissant que le M2, c'est qu'il est capable de monter à 4 GHz au lieu de 3,2 pour le M1, je me rappelle plus pour le M2. Ça chauffe quoi, voilà. Donc on sait que les processeurs Apple sont vachement doués pour être puissants sans consommer trop d'énergie, même en consommant très peu et en dégageant assez peu de chaleur, mais tout de même dans des appareils qui sont petits et très fins, dans certains cas ça peut poser un problème petit, hein, c'est pas non plus
François, c'est pas vraiment une surprise qu'un Mac avec un ventilateur chauffe moins qu'un Mac sans ventilateur.
Bah, c'est vrai que j'avoue que ça m'a fait rire parce que ça fait énormément le buzz, mais finalement rien de neuf sous le soleil. On sait très bien que sur la génération des M1, comme Fabrice l'a évoqué tout à l'heure, on avait le droit à du ventilateur uniquement sur le modèle MacBook Pro 13 pouces. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la toute première génération de M1, et c'était pas le cas sur le MacBook Air. Je pense que clairement, c'est un moyen aussi pour Apple de segmenter la gamme. MacBook Pro égale grosse machine, machine puissante égale ventilateur. MacBook Air, machine grand public, bah, pas de ventilateur. Puis c'est aussi un moyen de montrer que technologiquement, les processeurs Apple Silicon sont assez performants, économes, et qu'ils n'ont pas besoin surtout d'avoir de ventilateur pour proposer des performances somme toute satisfaisantes pour le commun des mortels, je vais le dire comme ça. Il n'y a que des gens comme vous et moi sur de la photo, de la vidéo, on a vraiment besoin d'avoir une machine très puissante. Moi, je vois mon MacBook Pro, honnêtement, le ventilateur se déclenche même très rarement au final, je ne sais pas pour toi. Je ne vais pas demander à Gilles, parce que son MacBook Pro M3 Pro, il ne l'a toujours pas, mais à toi, je peux le demander, Benjamin.
Ça arrive très rarement. Très très rarement, ouais.
Et ça montre moi, surtout en fait qu'ils ont... Ouais, c'est ça. Moi, c'est juste des fois sur des exports de photos, mais en dehors de ça, c'est rare.
Gilles, il y avait une autre solution finalement, plutôt que de laisser le Mac chauffer et donc de voir les performances dégradées, c'était de brider un petit peu le processeur, comme ça il chauffe moins, puis au moins il tourne toujours à la même vitesse. C'est quoi l'intérêt ?
L'intérêt, c'est que on prend un appareil et on l'utilise pour les choses pour lesquelles il est conçu. On peut prendre un cabriolet.
Non, mais l'intérêt, c'est qu'on affiche des performances et puis en fait, au bout d'une demi-heure, les performances, elles chutent parce qu'il est pas refroidi.
Non, mais il est pas refroidi, mais ça dépend pour quelle tâche il est présenté. Tu prends un cabriolet et tu vas traîner un canon de 155 derrière. Au bout d'un moment, ça va chauffer. Ton moteur va chauffer. Pourtant, c'est un MacBook Air, c'est de cet ordre-là. Oui, c'est fait pour des tâches de bureautique, corriger un peu de photos dans Photo. C'est pas fait pour faire du travail très lourd. C'est la raison pour laquelle le même moteur dans le MacBook Pro est refroidi par un ventilateur et surtout il est dans une coque, dans un espace moins contraint où l'air peut circuler davantage et la chaleur peut se dissiper. C'est...
Je suis obligé de te contredire un petit peu parce que c'est vrai que les deux tests qui ont été faits et qui sont racontés par The Verge, le premier c'est dans Cinebench qui c'est vrai est un logiciel plutôt professionnel, très clairement, mais l'autre test c'est un test de jeu, c'est Tomb Raider, hein, je crois Fabrice, de mémoire. Mm. Donc là on est par définition dans un usage très grand public, je veux dire.
Oui, mais c'est grand public, mais les Mac sont pas des machines de jeu. C'est pour ça que je pense qu'on peut trouver un compromis entre vous deux, Benjamin et Gilles, sur le fait que les Mac donc sont pas faits pour le jeu, ont pas été conçus pour le jeu, même si Apple essaye de changer un peu le discours autour de ça. Et puis rappelons quand même que quand les Mac qui sont testés pour des calculs très longs baissent un peu leur performance, ça reste des machines super performantes, ils se mettent pas à genoux non plus quoi. C'est pour ça que je trouve intéressant la démonstration de la boîte Frore qui a fait ce truc là, mais ça change pas non plus intrinsèquement la vitesse et la puissance du MacBook Air en question. C'est-à-dire que ça permet de tenir un peu plus la puissance maximum, mais quand il n'y a pas le système, quand il n'y a pas la pâte thermique, la puissance baisse un peu. Et j'aurais envie de dire, en fait, pour rejoindre ce que disait Gilles, si on a un besoin super professionnel pour faire tourner des trucs toute la journée au top de la puissance parce qu'on fait du montage vidéo, de l'export de photos haute définition, à ce moment-là, on le fait pas sur le MacBook Air. C'est pas la machine dont on a besoin et qu'il faut qu'on achète. Tout en disant quand même que ça reste possible. C'est ça ce qui a changé énormément avec les processeurs Apple, c'est que on peut le faire quand même. Et ça change tout quand même. Avec un processeur Intel, on peut le faire si on met des écouteurs pour se boucher les oreilles tellement le ventilateur tourne fort quoi.
Ouais. Il faut voir à quel prix aussi. Ils ont enlevé les haut-parleurs, ils ont enlevé le Wi-Fi. Et puis, ils ont déconnecté je ne sais plus quoi. Donc, effectivement, à partir de là, on peut se faire son MacBook Pro soi-même, pardon, son MacBook Air soi-même, mais on n'est plus dans la façon dont Apple l'a pensé et le public auquel la boîte l'a destiné.
Ouais. Alors, c'est vrai que
c'est un test seulement.
Ouais, c'est vrai que l'installation du
système de refroidissement... Oui, c'est une façon de se faire... Ouais. C'est une façon de se faire de la pub, ça que je voulais dire, dans la mesure où le PDG de la boîte glisse quand même que si les constructeurs utilisaient sa solution, ils pourraient présenter des performances, ils pourraient éviter de dégrader les performances. Donc prenez-moi comme OEM quoi. OEM, c'est pas, c'est un coup de pub disant on n'est pas, vous faites pas d'efforts les gars, il y a d'autres solutions et que les clients fassent faire le buzz et que les clients fassent pression.
Ouais, alors ce que je trouve intéressant moi c'est que ils montrent quand même si le système est un peu, ils ont vraiment effectivement ils sont allés chercher la place partout et voilà c'est branché de manière très artisanale avec un câble qui rentre dans l'un des ports USB et tout pour alimenter le petit ventilateur. Mais leur système est assez étonnant, c'est vrai, Fabrice. Il est quand même très fin parce que je crois que c'est l'équivalent de deux pièces de monnaie l'une sur l'autre, si j'ai bien compris. Mmh. Et il montre quand même si c'est du bricolage, qu'on pourrait mettre un ventilateur dans un MacBook Air.
Mais c'est ça le truc. Gilles dit que c'est du bricolage, mais il se cache pas que c'est du bricolage parce que c'est comme un prototype. On peut pas dire qu'un prototype c'est moche. Ils arrivent à montrer que c'est possible en faisant quelques compromis dans le châssis du MacBook Air 15 pouces pour le moment. Mais on peut très facilement imaginer que des ingénieurs, que ce soit chez Apple ou ailleurs, arrivent justement à concevoir un MacBook Air 2 la même taille en intégrant un système comme ça. C'est ça que ça montre. On voit d'ailleurs, une vidéo qui montre que le système de refroidissement qu'il propose est monté dans un mini PC. Un mini PC, c'est, il faut imaginer un Mac Mini, pardon, coupé en quatre. Un quart de Mac Mini, et dedans il y a un processeur Intel qui est plutôt réputé pour chauffer un peu, tous les ports USB que vous voulez, un port HDMI, etc. Donc c'est ça un mini PC, c'est une catégorie qui est vraiment intéressante et marrante à regarder. Et avec un petit système comme ça, c'est la même caisse, ils arrivent à faire rentrer ça, ça va être vendu $500. Et d'un seul coup, on a un processeur Intel qui va garder quasiment toute sa puissance, même en étant poussé à fond. Donc, si ça rentre dans une petite boîte comme ça, minuscule, alors on peut imaginer qu'un MacBook Air, si Apple voulait faire la même chose, il n'y aurait pas de problème à faire rentrer ça dedans.
Je vais continuer de jouer l'avocat du diable, mais je vais passer de l'autre côté de la barrière, parce que je me souviens de l'achat de mon premier MacBook Air, c'était le tout premier, je crois. Je crois que l'une des raisons pour lesquelles je l'avais acheté, c'est qu'il n'y avait pas de ventilateur. Qui avait une très grosse autonomie et qui n'avait pas de ventilateur. Le côté, le portable qui ne se met jamais à souffler, ça me plaisait beaucoup. Et j'ai adoré ce premier MacBook Air. Donc là, on essaye de pousser le MacBook Air pour devenir une bête de course, mais effectivement, ce n'est pas vraiment sa raison d'être.
C'est un peu ce que je sous-entendais dans mon commentaire. Le MacBook Air n'est pas une machine pour ça, en fait. Je pense que les gens, que je le redis, qui ont besoin de puissance, ils vont plutôt taper sur le MacBook Pro. Et justement, ce qu'on veut avec un MacBook Air, c'est qu'il soit léger, fin, comme tu l'as dit, grande autonomie. Le Mac à tout faire, mais pas à faire des trucs trop puissants. Et voilà. Après, je rejoins ce que disait Fabrice. En fait, c'est juste, à mon avis, une manière pour l'entreprise de faire parler d'elle. C'est tout. Regardez la prouesse technologique. Je pense que si Apple avait voulu mettre un ventilateur dans le MacBook Air, ils auraient pu. Il aurait sans doute été un peu plus épais, peut-être, et encore, c'est même pas sûr.
Mais c'est vrai que leur techno est intéressante de ce point de vue-là, et ça permet de la découvrir, ce qui n'est pas forcément mal, n'est-ce pas, Gilles ?
Oui, mais pourquoi mettre un truc qui va à l'encontre du concept ? Comme tu disais si bien, on se débarrasse du ventilateur, on fait un truc marketing, un peu comme au moment où Apple embarque le macOS 10 qui est censé pas planter, il supprime le bouton reset. Au moment où Apple lance le Wi-Fi sur l'iBook, Phil Schiller saute pour marquer qu'il n'y a pas de connexion, Schiller et que donc c'est entièrement en aérien. Il n'y a pas de fil. C'est l'idée du plus autonome, du plus fin, du plus léger. Et pourquoi rajouter en plus un dispositif qui va gréver un peu plus, même si c'est pas énorme, l'autonomie en pompant quelques watts par-ci par-là sur le fonctionnement, sur la batterie. Donc tu as raison, c'est aussi quelque chose pour faire parler d'eux et se faire embarquer par les constructeurs.
Ouais, bon, je précise, hein, je rappelle plutôt qu'ils ont choisi le MacBook Air pas tellement parce qu'il faudrait absolument un ventilateur dedans, mais parce que c'est vraiment l'un des plus fins. Et donc, c'est pour la prouesse d'intégration, on va dire aussi, qu'ils l'ont fait. Tu évoquais, Gilles, la consommation d'énergie que réclame ce dispositif supplémentaire. Fabrice, quel impact ça a, ce petit système, là, sur l'autonomie d'un MacBook Air M2 15 pouces ? On sait à peu près.
Je me rappelle plus exactement, mais globalement pas grand chose parce que c'est 0,1, 0,2 watts. Enfin, c'est pas grand chose, quoi. Et puis c'est pas forcément en plus utilisé tout le temps, hein, dans ce cas-là. Revenir sur ce que disait Gilles aussi, c'est pas nécessaire tout le temps, donc il ne serait pas en route tout le temps. Et puis sur le côté silencieux, c'est un système qui a priori est même on est à l'état de prototype aujourd'hui très silencieux, plus silencieux qu'un ventilateur par exemple, en prenant moins de place pour avoir un même déplacement de flux d'air. Donc ça pourrait répondre à cette discussion là. Et je rejoins ce que dit Gilles. Évidemment, ils mettent ça dans un PC, parce que des PC portables très fins, il y en a aussi, mais s'ils l'avaient mis dans un PC très fin, on n'en parlerait pas à personne. parce que tout le monde s'en fout. Là, c'est sur un Mac, donc du coup, on en parle. C'est évident que c'est un coup de pub, mais c'est un coup de pub réussi, parce que je trouve que ça pose des vraies questions et peut-être que ça suffit juste à justifier et à replacer le MacBook Air sur pour ce qu'il est, justement, que si vous faites l'export Lightroom toute la journée, c'est pas la machine qu'il vous faut, ou alors vous acceptez justement la petite perte de performance au bout d'une demi-heure et puis c'est tout. C'est juste ça, finalement.
Bon, en tout cas, si l'idée, par exemple, d'ajouter de la pâte thermique, hein, tu l'évoquais, Fabrice, vous intéresse, on vous renvoie vers la vidéo sur la chaîne YouTube de MaxTech qui montre comment il a procédé et puis quel bénéfice ça peut éventuellement apporter. Alors, un autre message important pour nous, si vous appréciez notre travail, que ce soit autour d'iWeek, la semaine Apple, ou de notre nouveau podcast, le premier podcast à la parution imprévisible, je parle évidemment de iWeek Express, eh bien, rejoignez la communauté iWeek sur Patreon et aidez-nous à continuer cette aventure géniale. La page iWeek sur Patreon, c'est donc sur patreon.com/iWeek. Elle vous attend. Un grand merci à chacune et à chacun d'entre vous. Et on a besoin que vous soyez encore plus nombreux pour nous aider à développer iWeek et vous proposer toujours plus de contenu. Alors, on passe maintenant au dossier de la semaine. Message, l'application bientôt compatible RCS. Est-ce qu'on doit s'attendre à une petite ou à une grande révolution? Vous vous souvenez, hein, c'était il y a une quinzaine de jours, au milieu du mois, Apple annonçait l'adoption du protocole de messagerie instantanée RCS dans le courant de l'année prochaine dans son application Message. Alors, on voulait revenir sur ce coup de théâtre en nous posant plusieurs questions. Qu'est-ce que ça va changer pour chacun de nous? Est-ce que c'est une petite ou une grande révolution? Quelle sera la portée de cette nouvelle compatibilité? Quelles seront ses limites? Et pour commencer, j'ai envie de poser une première question de base. Le RCS, qu'est-ce que c'est? Est-ce que l'un de vous peut m'expliquer ce que c'est que le RCS?
On va y aller, on va essayer. Le RCS, c'est enfin le remplaçant du SMS. Donc, ça veut dire que c'est un standard proposé pour tout le monde pour envoyer des messages plus ou moins courts depuis son téléphone mobile, donc son smartphone aujourd'hui. Justement, smartphone, parce que, au contraire du SMS encore aujourd'hui, ça ne passe pas forcément par le réseau de l'opérateur, mais ça peut, si besoin, passer par un réseau juste Internet, que ce qui soit 4G ou Wi-Fi, pour envoyer et recevoir des messages. Ça veut dire aussi que, ce faisant, c'est un standard plus moderne, proposant des fonctions qui manquent cruellement au SMS et qui a mené justement à l'éclosion de toutes ces messageries concurrentes, c'est-à-dire pouvoir faire des messages de groupe, pouvoir envoyer des photos et des vidéos de bonne qualité, c'est-à-dire donc pouvoir envoyer des messages quel que soit le type de connexion, avoir un petit marqueur quand quelqu'un est en train de taper un message, le ou les correspondants voient que la personne est en train de taper, donc éventuellement on va se retenir avant d'envoyer un message pour pouvoir lire ce qui va être envoyé. Toutes ces choses qui font que on utilise plutôt, alors c'est les améliorations de d'e-message, mais aussi de WhatsApp, mais aussi de Signal, mais aussi de Telegram, mais aussi de toutes les autres, finalement. Donc ça manquait au SMS, et notamment puisqu'il y avait pas ça dans le SMS, et je pense que on va aussi parler de ça. Ce qui a mené à tout ça, c'est que le coup de maître d'Apple, c'est d'avoir intégré les SMS dans son appli e-message et ensuite de montrer qu'il y a une différence entre les messages avec les bulles vertes et les bulles bleues. Mais on a tous fait l'expérience, on crée un message de groupe et puis dans les destinataires, il y en a un ou une qui a un Android et qui n'a pas un iPhone, ou qui a un iPhone mais qui n'a pas activé le service e-message, c'est ça aussi. Et à ce moment-là, le message de groupe se disparaît et le message est envoyé, mais ensuite les gens qui répondent, ça répond pas à tout le monde. Donc c'est heureusement que ça arrive. Moi j'ai le sentiment que ça aurait pu être une révolution il y a 5 ans, et je me demande si c'est pas un peu tard pour faire la révolution en question.
Intéressant. C'est quoi votre perception, Gilles et François, sur la perspective de la compatibilité RCS dans Message? Est-ce que vous avez l'impression que pour nous, ça va être complètement transparent et qu'on va se rendre compte de rien parce que de toute façon, on va rester avec nos bulles bleues la plupart du temps? Ou est-ce que vous pensez que ça va vraiment changer quelque chose?
Pour les utilisateurs de Mac, ça ne change rien, d'autant que y a deux, on parle du RCS, mais apparemment il y a deux RCS. Il y a celui de la GSM Association et puis celle de Google. Celle de Google passe par les réseaux de Google et qui regarde ce qui se passe, qui regarde ce qui entre, et qui donne un aperçu du marché. Parce qu'on sait qui est en activité. Si c'est plutôt de l'Android. Marché,
un aperçu du marché.
Le marché du smartphone. On regarde quelle proportion d'Android ou quelle proportion d'iPhone. Et il va y avoir forcément une signature. Ça, c'est une chose. Et puis, les messages ne sont pas cryptés de bout en bout, comme peut l'être iMessage. Et Apple a eu pris bien soin de dire qu'ils allaient travailler avec la GSM Association pour apporter ce cryptage, ce chiffrement de bout en bout et préserver la sécurité. Il faut aller dans le sens de Fabrice. Le SMS, c'est une technologie du siècle dernier qui date des années 90 et qui était la principale porte d'entrée du hack des iPhones pour tous les malandrins, y compris le logiciel de Pegatron. Donc, Apple avait également intérêt à se débarrasser de cette backdoor que représentait encore le SMS.
Alors, je crois que tu parles de Pegasus, parce que Pegatron, c'est autre chose. Hein.
Oui, pardon, Pegasus. Pegatron, c'est le fabricant de l'assembleur pour tout un tas d'appareils. C'est un acteur historique en plus.
On est d'accord. François, puisqu'il y a deux RCS, il y a celui de l'association GSM et puis celui qui a modifié Google, qui lui est chiffré de bout en bout, pourquoi est-ce qu'Apple ne prend pas directement suite Google? Ce serait plus simple.
Ouais, mais bon, c'est Google, donc je pense que Apple aimerait bien éviter. Hein. On se rappellera qu'une des seules fois où Google et Apple se sont mis d'accord, c'était l'application pour le Covid, la détection du Covid. Hein. On ne reviendra pas sur ce débat-là. Non, moi, je t'avoue que ça m'en touche une sans bouger l'autre, comme dirait notre ami Jacques Chirac.
De tes oreilles.
Oui. Honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, peut-être que ça paraît comme une révolution pour des gens qui sont dans le milieu de la tech, mais je pense que pour les personnes lambda qui utilisent leur téléphone, ça va pas changer grand-chose. Je trouve ça déjà compliqué, en fait, pas plus tard que le week-end dernier, il a fallu que je réexplique l'histoire des bulles bleues et des bulles vertes, parce que maintenant, tu as des opérateurs en fait qui ne vendent plus de MMS, tu peux plus avoir de MMS. Et donc, on me demande, mais pourquoi est-ce que quand j'envoie des photos à certains, ça passe et à d'autres, ça passe pas? Bah oui, parce qu'en fait, ton opérateur ne donne plus la possibilité d'envoyer des MMS. Mais en iMessage, ça passe. Pourquoi ça passe en iMessage? Bah parce que l'iMessage, c'est entre téléphone et Apple. Ça repose sur Internet, pas le MMS. Ça devient hyper complexe. Et honnêtement, c'est bien, c'est chouette. Ça veut dire que quand on échangera avec des Android, moi, c'est le seul intérêt que je vois, en fait. C'est quand on échangera avec des gens qui ont des téléphones Android, des cœurs, etc. Bah, au moins, au lieu d'avoir juste le machin à aimer, on aura le petit cœur, voilà, en dehors de ça. C'est pas un sujet qui me passionne, je suis désolé hein, de le dire aussi clairement, mais effectivement, je pense qu'il y a 5 ans, mais aujourd'hui, tout ce qu'on pouvait avoir avec Telegram, avec WhatsApp, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà passés sur WhatsApp, sur Telegram et autres, et qui vont pas réutiliser le message classique juste parce qu'il y a le RCS chez Apple, quoi.
Fabrice, je vais pas faire tout dire à François. Bulle verte, bulle bleue, est-ce que tu peux nous rappeler à quoi ça correspond pour ceux qui s'y perdent un peu?
Bon, ça, c'est ce qu'il a commencé à rappeler. Hein. Donc, on s'envoie des bulles bleues entre personnes de bonne compagnie, c'est-à-dire entre appareils Apple, que ce soit iPhone, iPad ou Mac connecté avec un compte Apple. Et les bulles vertes, ce sont quand si on se circonscrit à l'iPhone, c'est quand on envoie un message vers un appareil qui n'est pas compatible e-message, donc essentiellement les Android. Vous n'avez pas entendu ça. Donc, c'est essentiellement vers les Android ou vers un téléphone qui n'est pas smart. Ça existe encore, des gens qui ont des feature phones. J'en connais quelques-uns, peu, mais j'en connais. Donc, les SMS de base. Je pense que on a tous vraiment pris l'habitude d'utiliser WhatsApp, par exemple. C'est ce qu'on fait nous-mêmes. Pour la team iWeek, quand on s'échange des messages, c'est avec WhatsApp. Cela dit, il faut bien penser à un truc, c'est que WhatsApp a une très très grosse part de marché en Europe, mais pas forcément aux États-Unis, et que ce débat-là sur les bulles vertes et les bulles bleues est encore plus prégnant aux États-Unis, en fait. C'est même devenu presque une maladie, je trouve pas un autre mot, mais il y a tout un tas de gens qui sont mis à l'écart. Donc chez les ados, c'est une façon parfois d'être un peu harcelé parce que on n'a pas quand on envoie des messages, on n'a pas la bulle bleue, quoi, et on se fait pointer du doigt, comme l'a fait justement François en disant tiens les appareils de pauvres, dans les cours d'école aux États-Unis, des fois c'est plus grave qu'une simple blague.
C'était de l'humour.
Oui, en France, oui, mais aux États-Unis,
non,
pas toujours.
Tu veux dire qu'il y a une discrimination véritable autour de ça?
Oui, absolument. Donc, le sujet bulle vert, bulle bleue est très, très important aux États-Unis, beaucoup plus qu'ici. C'est pour ça, alors, on en parlera tout à l'heure, là, ou peut-être tout de suite, mais de ce qu'a essayé de faire la marque Nothing, pour faire parler d'elle, naturellement. La marque Nothing, donc, c'est une marque de smartphones et d'accessoires. Qui essaye de faire un peu ce que fait Apple, en tout cas en termes de marketing, et qui, voyant justement cet état de fait aux États-Unis, a proposé une nouvelle application sur ses smartphones, donc de la marque Nothing, une application Nothing Chat, qui permettait de se connecter à un service et donc d'envoyer, de recevoir des bulles bleues comme si on avait un iPhone, mais depuis un smartphone Nothing qui, lui, fonctionne avec Android. Et ça se reposait, en fait, sur un service externe d'une boîte qui s'appelle Sunbird, et qui servait d'intermédiaire. Sauf que, alors ça a duré quelques jours, parce que c'était il fallait surtout pas le faire. Imagine, pour pouvoir faire ça, il fallait que tu confiais confies ton mot de passe à quelqu'un d'autre, le mot de passe de ton compte Apple. C'est ça que je trouve ça génial. Il y a quand même des gens qui osent tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Tu confies le mot de passe de ton compte Apple complet simplement pour être capable de recevoir et d'envoyer des bulles bleues depuis un téléphone Android. Ils ont fait une vidéo de présentation avec le PDG de Nothing qui s'adresse à Tim Cook en disant désolé Tim Cook, tu veux pas qu'on ait des bulles bleues, ben on va le faire quand même, jusqu'à ce que ça ait déclenché des hauts cris en disant mais surtout ne proposez pas ça aux gens, il y a des gens qui vont le faire sans se rendre compte et qui vont se faire piquer leurs données du jour au lendemain parce que ils donnent les clés, quoi, c'est complètement con. Mais voilà, mais la bataille bulle verte bulle bleue est tellement importante aux États-Unis que ça mène à ce genre de truc là.
Oui, c'est une histoire de dominance et de d'une part la popularité dans les lycées américains est très très importante. Et c'est comme ça que Facebook également à la fac s'est imposé, on jaugeait de la popularité de telle ou telle étudiante. Et puis les parts de marché des Américains et la popularité de l'iPhone chez les jeunes Américains est écrasante. C'est de l'ordre de 80%. Du coup, la majorité écrase la minorité. Et on a des phénomènes de bullying, de harcèlement, un peu comme on peut voir ici à propos de basket ou de blouson de marque. Là, c'est l'iPhone.
Bon, si on revient aux fondamentaux là, de notre dossier de la semaine... n'est-ce pas? Les avantages du passage au RCS, pour ceux qui étaient encore au SMS, MMS de base, il y a quoi? Il y a une dizaine d'améliorations quand même. Hein.
Oui, on a commencé à en parler avec l'échange de photos et de vidéos, le fait d'avoir des accusés de réception aussi, on peut ajouter, d'envoyer des messages audio qu'on peut évidemment pas faire avec un SMS. J'ai tendance à oublier le MMS parce que en fait c'est une catastrophe le MMS. Faut surtout pas le faire. On s'est tous fait avoir. Je pense que maintenant c'est plus le cas, mais à recevoir des MMS parce que quelqu'un fait pas attention et t'envoie une vidéo et donc pour le recevoir, faut cliquer ici, enfin, il faut cliquer 18 fois, puis ensuite, tu t'aperçois que tu as payé 2,50 € pour recevoir une vidéo minable. Et de chat, naturellement. Voilà, donc il y a tout ça. Alors, il y a aussi le meilleur niveau de sécurité. Alors, Gilles l'a abordé tout à l'heure, il y a plusieurs éléments à ça. Le SMS n'est pas du tout chiffré, le RCS l'est, donc la version de l'association GSM c'est chiffré, mais pas de end-to-end, de bout en bout, je cherchais l'expression française, merci. Et donc c'est un problème, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a des intermédiaires qui peuvent lire le contenu du message. Quand c'est chiffré de bout en bout, on ne peut pas, c'est le cas de WhatsApp, c'est le cas de e-message, c'est le cas de tous les autres, où c'est maintenant chiffré de bout en bout, et c'est pour la sécurité, c'est donc plus intéressant. La version RCS de Google permet de faire ça, donc effectivement, comme c'est Google qui la propose, Apple dit bon, on va peut-être pas l'adopter complètement. En même temps, Apple a aussi cet intérêt, en arrivant en retard, de dire oui, mais nous, très bien, on a besoin d'un truc chiffré de bout en bout, faisons une norme que l'association GSM va mettre en place et à laquelle on pourra adhérer et à laquelle Google adhérera aussi. Donc, Apple va rendre à Google la monnaie de sa pièce, qui ça fait 2 ans ou 3 ans que Google n'arrête pas de dire, de pointer du doigt sur Apple en disant « Ah, alors, quand est-ce que tu adoptes RCS ?» Et Apple va dire « Bah nous, on adoptera RCS exactement quand ce sera, et on adopte que la norme mondiale, et toi pas, qu'est-ce que tu fous ?» Voilà, donc ça va être ça la discussion. C'est intéressant.
Alors, si on se projette courant de l'année prochaine, quand cette compatibilité va arriver effectivement, pour nous, sur nos iPhones, qu'est-ce que ça va changer? Comment ça va se présenter, à votre avis? Est-ce qu'on va avoir une autre appli? Est-ce que ce sera dans l'appli message?
Je pense que ça va être intégré dans l'application de message directement. Il n'y a pas de raison que Apple nous pompe une autre application. Le but, c'est la simplicité chez Apple à chaque fois. Donc, pour moi, ce sera intégré dedans.
Et donc, par défaut, on continuera d'envoyer des e-messages, par défaut.
Oh, bah, ce serait étonnant qu'Apple rétrograde là-dessus, je pense que...
Bah oui. En fait, ça va changer, ça va rien changer, hein, pour nous. Parce qu'on va envoyer en bulle verte des RCS.
C'est ça.
C'est tout.
Parce que tu parlais de ceux qui n'activent pas e-message dans les réglages de l'appli message. À partir de cette intégration, donc, effectivement, ils enverront des messages RCS plutôt que des SMS, c'est ça?
Ben oui, mais le truc avec ça, ils resteront des bulles vertes. Mais
on est sûr
il y a
ça
tout un. Mais oui, parce que Apple l'a dit en fait. Hein. Le truc qui est vraiment important, je pense, c'est que François, il faisait référence tout à l'heure. T'as beau l'expliquer une fois, deux fois, 10 fois, 25 fois, il y a plein de gens qui comprennent pas pourquoi les bulles sont de différentes couleurs. Et qui te repose la question, hein, je pense que c'est arrivé à François tout un tas de fois et à vous aussi en fait. Ah oui, mais alors comment ça se fait? J'ai envoyé un message à tout le monde et il y en a qu'un qui m'a répondu, pour simplifier la problématique. Et avec RCS, ça ne se passera plus. Donc il y aura un message de groupe, il y aura sûrement d'autres limitations, par exemple en nombre de personnes, j'ai pas lu ça, le nombre de personnes qu'un groupe RCS va pouvoir recevoir, ce sera probablement plus petit qu'un groupe e-message ou qu'un groupe WhatsApp ou qu'un groupe Telegram qui peuvent monter à plusieurs milliers de personnes, ça m'étonnerait qu'RCS arrive à ça, mais dans une utilisation quotidienne pour des gens normaux, envoyer un message à 25 personnes pour dire tiens c'est la fête d'anniversaire, ça marchera très bien, et à ce moment-là, la différence, en fait c'est la différence entre les bulles vertes et les bulles bleues qui s'amenuisent un peu, et pour les vrais gens, il y a un moment ils se poseront moins la question parce qu'ils verront moins la différence, à part la couleur, ils seront moins gênés. Et je pense que c'est ça qui va faire un petit changement.
En fait, c'est surtout pour les échanges hétérogènes que ça va un petit peu améliorer les choses.
Exactement. Ouais, exactement.
D'iPhone à Android et vice-versa. Il y a encore pas mal de frustration autour de ce qu'on peut faire.
C'est pour ça que je suis très étonné. Ouais. Je ne comprends pas en fait tellement pourquoi Apple a tant attendu.
Bah oui.
Parce que justement, ce
pour garder l'avantage.
Oui, bien sûr. Mais du coup, c'est un raisonnement très américano-centré. C'est ça que c'est là où je veux en venir. C'est-à-dire que le fait d'avoir quelque chose qui, parce que finalement, ça augmente les capacités, les fonctions de l'application e-message, et c'est tout bénéfice pour Apple que les gens restent sur e-message parce qu'ils peuvent tout faire, y compris des SMS améliorés. Et on aurait pu avoir ça il y a 3-4 ans, et je pense qu'on serait mieux aujourd'hui, en fait.
Bah oui. C'est vrai que quand on essaye de partager des photos avec certains correspondants sous Android, ça arrive qu'on ait des soucis parce que les photos sont trop lourdes, ça passe pas. C'est le genre de problèmes qui vont être en grande partie réglés.
Ouais.
Ouais.
Absolument.
Votre explication du revirement d'Apple, François et Gilles, à votre avis, qu'est-ce qui fait que là, tout à coup, ça a surpris tout le monde. On était en train d'enregistrer quand c'est tombé il y a 15 jours. Pourquoi Apple aujourd'hui se réveille et décide et accepte de baisser un peu la garde sur le sujet du RCS?
À mon avis, il y a la principale raison, c'est que Apple est quand même régulièrement sur le devant de la scène pour pas mal de petites choses, et sur le devant de la scène pour des choses qui peuvent ne pas faire de la bonne pub. Hein. Je repense à Epic Games, je repense aux positions d'abus sur l'installation des applications uniquement par l'App Store. Tout ça, c'est en train de bouger, et je pense que Apple s'est peut-être dit bon, il y a un moment. On va peut-être anticiper un peu parce que voilà, ça va faire beaucoup de mauvaises pubs. Et au moins là, ils anticipent. L'UE les a quand même gentiment menacés entre guillemets. Google en a profité pour dire regardez, le voisin, il est pas bien, il respecte pas. On peut pas. Donc je pense que c'est un moyen d'éviter de se faire taper sur les doigts une fois de plus, quoi. Fabrice n'a pas l'air d'accord.
Le combat est pas essentiel là-dessus. Et il y a une fixette des autorités de régulation et de l'Europe sur les gatekeepers, au lieu de taper là où ça fait mal, et en augmentant la fiscalité et empêchant la mise en place de monopoles ou d'oligopoles, ils préfèrent venir à posteriori en faisant de la régulation. Mais pour moi, il y a également une problématique de sécurité. Dans la mesure, en se débarrassant du SMS, on gagne en sécurité sur la partie du RCS qui est davantage blindée. D'autant que le combat essentiel, là, est sur la boutique, les boutiques tierces sur iOS, à tel point que Apple vient de introduire une procédure de contestation au niveau européen pour contester l'obligation qui lui est faite par Thierry Breton.
Dire que c'est pour calmer un peu l'Europe en lâchant du lait sur un sujet qui n'est pas fondamental, en fait.
Il faut choisir ses combats, et ceux qui sont un peu plus importants. Oui.
Alors, le timing, Fabrice, Apple dit courant 2024, plutôt fin d'année, si je comprends bien, selon la terminologie « later next year ».
C'est pas facile de savoir. C'est un peu comme pour le Vision Pro, on va dire en début d'année 2024. Est-ce que ce sera janvier ou est-ce que ce sera mars pour le Vision Pro? On n'en sait rien. Pour ça non plus, en fait, c'est à se demander si finalement ils n'ont pas eux-mêmes pris la décision finalement assez tardivement en interne et qu'ils ne savent pas tellement dans quelle version de système ils vont l'intégrer. Donc on n'est pas à l'abri d'une mise à jour iOS 17.5 qui intègre ça et qui serait en cours au milieu, quoi. C'est une fonction relativement, ce serait une mise à jour de relativement grande envergure. Mais enfin, on en a déjà vu des fonctions vraiment importantes ajoutées à mi-chemin. C'est possible, voilà. En fait, je me demande si ça va pas dépendre aussi en partie de la réponse de l'Union européenne. Je suis d'accord avec ce qu'a dit François, contrairement à ce qu'il pense. l'arrivée du RCS chez Apple, cette annonce-là, c'était en gros la veille de l'annonce de l'Europe. Enfin, il fallait qu'ils répondent quelque chose le lendemain sur justement cette histoire de compatibilité des messageries et des gatekeepers, comme dit Gilles. Je pense que là, il y a un espoir de la part d'Apple, vraiment pas déguisé. C'est-à-dire que franchement, c'est pas, ils ont pas fait dans la dentelle, quoi. Ils ont dit, bon, d'accord, on veut bien. Alors, on vous propose ça. Maintenant, vous dites quoi? Voilà. Pour dire, regardez, on est compatible avec une norme mondiale. Venez pas nous chercher des noises pour le reste. Et je suis d'accord avec Gilles. C'est une autre histoire. Mais la vraie question, ce sera l'ouverture aux magasins tiers pour les applications sur l'iPhone. Et là, la bataille va être sanglante. Oui, c'est sûr.
Bon, ben voilà ce qu'on pouvait dire sur ce coup de théâtre du RCS avec un petit peu de recul. Ça fait à peine 15 jours hein, que c'est tombé. On voulait en reparler avec vous. On passe au journal de la semaine, les news marquantes des 7 derniers jours. Et on commence par cette rumeur qui se précise autour de la deuxième génération de Vision Pro. On parle de 2025. Ça, c'est un objectif qui est récurrent. La nouveauté, c'est que Apple viserait un prix divisé par deux, et ça, ce serait plutôt une bonne surprise, n'est-ce pas, Gilles?
Oui, comme ça qui procède assez habituellement, pas toujours, toujours le cas, mais s'ils veulent, on va peut-être en reparler, avoir des objectifs de l'ordre du million ou au-delà dans les 4 ou 5 ans, il va falloir qu'ils ouvrent la possibilité à de plus en plus de gens d'acheter ce produit pour lequel ils ont d'énormes ambitions, sachant que pour eux, c'est une nouvelle façon de faire de l'informatique et de concevoir des choses pour l'ensemble des créateurs.
François, un Vision Pro V2 entre 1500 et 2500, est-ce que ça change la donne, notamment pour toi peut-être?
Ah non, moi j'ai prévu de payer la première génération, tu t'en doutes bien. Non, je rigole,
sérieux?
Mais oui, je pense.
Sérieux?
Non, non, non. Non.
On y a cru.
Non, on y a cru. Hein.
Après, ou alors, faudra vraiment qu'après test, je me dise non, c'est ce qu'il me faut. Non, à ce prix-là, je pense que de toute façon, c'est à l'image de pas mal de produits Apple. Il y a le première génération très cher et après les prix baissent. Maintenant, si effectivement ils arrivent à sortir un produit entre 1005 et 2005, je suis curieux de voir ce que ça donnera parce qu'il y a tellement de techno dans ce Vision Pro et ils ont mis tellement ça en avant que qu'est-ce qui va rester à ce produit d'entrée de gamme? Ça me fait toujours rire quand on dit de l'entrée de gamme à 2500 €. Mais voilà, qu'est-ce qui va rester à ça? Parce qu'il y a plein de technos qui sont énormes dedans. Peut-être qu'Apple, finalement, va se rendre compte et renoncer à certaines technos sur le moyen long terme, justement à cause du coût. Le Vision Pro, ça a été un moyen de montrer toute cette débauche de technologie, mais qu'est-ce qui va en rester vraiment dans quelques années? Je suis curieux de le voir. Mais j'ai hâte de le tester, même si je chambre souvent en disant que j'ai oublié qu'il allait sortir. Mais voilà, par contre, ce sera 2024, du coup. Ce ne sera pas late 2023.
Fabrice, dans cette news, on apprend aussi qu'il y aurait pas moins de 4 modèles de masques en développement. Alors, on ne sait pas si c'est 4 générations avec une roadmap ou si c'est 4 variantes de la V2.
Il ne serait pas étonnant qu'il y ait un moment, au début, il y avait la Terre, pour remonter très loin, mais au début, il y avait le Mac. Et puis ensuite, il y a une gamme de Mac. Alors, ça ne serait pas étonnant qu'il y ait le Vision Pro et puis ensuite la gamme de Vision de masque avec différentes capacités, etc. etc. C'est normal, tant qu'à faire.
Ah, mais 4, ça semble... c'est beaucoup.
Hein. Il y a eu
on
des moments...
De deux. Déjà, 2, c'était pas mal. 4,
il y avait d'autant plus qui... Peut-être, mais d'autant plus qu'il y a, en tout cas, le modèle auquel on s'attend, celui qui a été présenté, on sait qu'il est très difficile à fabriquer, qu'il va coûter très cher et que probablement, en tout cas pour le premier, la marge va être assez réduite, ce qui est quand même assez rare chez Apple. Donc, ils vont trouver des moyens de faire une gamme avec des marges plus élevées pour la suite. Mais je pense qu'il y a un vrai parallèle avec le lancement du Mac, justement. C'est-à-dire que le premier Mac, il coûtait très cher à produire et là, les marges n'étaient pas comme aujourd'hui. Donc là, je pense qu'il y a un vrai pari de la part d'Apple de lancer quelque chose de nouveau, véritablement, qui soit pas que un casque de réalité virtuelle, comme on l'a déjà dit souvent. Et donc l'arrivée d'une gamme, ça me paraît normal, mais c'est difficile à voir aujourd'hui. On peut juste se dire, il y a plein de Mac dans la gamme, plein de Mac différents, ceci, cela. Il y a un moment, si le pari d'Apple fonctionne, il y aura plein de visions différentes parce qu'il faudra bien qu'il y ait un modèle pro et un modèle pas pro, par exemple.
Avec ou sans ventilateur, du coup?
Bonne question, François. Bon, tiens, puisque tu dis des conneries, je reste avec toi. Puisqu'on découvre de nouveaux produits domotiques compatibles HomeKit et bientôt Matter, paraît-il, chez IKEA, et ils sont vraiment pas chers.
Bah, on sait très bien que les produits IKEA en domotique sont généralement vraiment, vraiment, vraiment pas chers. Et à première vue, alors pour l'instant, c'est annoncé qu'aux États-Unis, mais ça devrait pas tarder à arriver en France. On va avoir un capteur de mouvement à l'image de ce que proposait déjà Aquara, Philips Hue et compagnie, capteur d'ouverture et de portes et de fenêtres, parce que généralement ça fait les deux, et un capteur de fuite d'eau. Alors ça, c'est vrai que c'est tout bête, mais c'est plutôt pratique. Aquara on fait déjà, Xiaomi, et puis il y en a d'autres d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, bah Eve aussi doit proposer ça, je crois. Enfin, Yves, pour le prononcer à l'anglaise, excusez-moi. Mmh. Non, c'est intéressant parce que ces produits-là sont vraiment pas chers. On sera à une dizaine de dollars à peu près. Il faut bien évidemment avoir leur nouveau hub Dirigera. C'est le nom, tu vois. Pour une fois, c'est pas trop compliqué à dire.
Ouais.
Mais la seule limite, c'est que ça fait très longtemps que IKEA a dit que ça allait devenir compatible Matter. Et pour l'instant, on ne voit rien venir. Et donc, du coup, la vraie question, c'est quand est-ce que ça va arriver? C'est vrai que moi, à un moment, j'avais pensé m'équiper de produits IKEA en domotique, mais bah, c'est vrai que le fait que ces produits-là, du coup, dans un premier temps, ne seront pas compatibles directement avec l'écosystème Apple, ça arrivera quand le hub sera compatible Matter. Et donc, c'est vrai que pourquoi pas, à ce moment-là, regarder de ce côté-là. Parce que c'est vrai que si les produits sont effectivement dans ces eaux-là, même comparé à des capteurs d'ouverture de porte Aquara, par exemple, qui sont quand même à entre 20 et 30 euros en fonction de la période, ça reste quand même beaucoup moins cher. Et bon, voilà, la force de frappe d'IKEA est quand même assez sympa. Et puis c'est surtout que vous avez sans doute un IKEA à moins de 100 km de chez vous, vu que généralement, c'est leur politique.
Mmh. Autre news, alors c'est plutôt un démenti de la part du Bon Coin à propos des prix auxquels on peut revendre du matériel Apple sur le célèbre site de vente de produits d'occasion. Le Bon Coin a été entre guillemets accusé à un moment de laisser Apple fixer des prix minimums. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a quelqu'un qui avait mis un produit Apple en vente et qui a eu un retour de la part du Bon Coin. En gros, le mail disait, c'est un mail d'une personne, hein, enfin d'un des salariés du Bon Coin, disait que voilà, le produit respectait pas le prix minimal et que du coup la vente allait être retirée. Ce qui fait que ça a été.
C'est quoi le prix minimal?
Ah voilà, ça c'est la vraie question. Mais il considérait qu'en fait le je sais plus c'était de, je j'ai plus le tarif en tête, je sais pas si vous l'avez vous. Je l'ai plus en tête. Mais c'est vrai qu'en fait après avoir vu ça, les news sont sorties assez vite. Et pas que sur les sites tech, en disant qu'il y avait eu un accord entre Google et, enfin, entre Lapsus, entre Le Bon Coin et Apple, comme quoi, bah voilà, on pouvait pas vendre ces produits au tarif qu'on voulait. Et du coup, il y a eu, un échange communiqué de presse du Bon Coin expliquant bien qu'en fait, l'idée, c'était pas qu'il y ait un accord avec Apple, mais c'est pour éviter les annonces frauduleuses. Parce que c'est vrai que si vous trouvez, une PlayStation 5, par exemple, à 150 balles, ça paraît peu crédible. Et en fait, visiblement, il y a des algorithmes. Et c'est supprimé quand le tarif paraît trop faible par rapport au produit. Donc ça a fait un petit peu le buzz avant-hier et hier, et il s'avère qu'il n'y a évidemment pas d'arrangement entre Apple et Le Bon Coin, bien évidemment, ni avec Sony, ni avec les autres d'ailleurs. C'est juste pour éviter de vous faire arnaquer.
Alors, c'est parti d'un confrère de MacG qui a tenté de mettre en vente des AirPods Pro première génération sur Le Bon Coin. Il avait proposé un prix à 60 euros. Et il avait précisé qu'il s'agissait de vrais AirPods Pro, hein, pas des contrefaçons, et il avait même fourni une photo du numéro de série pour prouver leur authenticité. Et c'est à la suite de cette tentative de mise en ligne de l'annonce qu'il a effectivement reçu un mail du Bon Coin disant qu'en gros le prix était trop bas, quoi.
Pour avoir validé pendant des années les petites annonces de Mac Plus, ce genre d'annonces avec des prix trop bas, nous, on les caviardait systématiquement. Elles n'étaient même pas publiées.
C'est intéressant parce que oui. c'est vraiment pas facile, hein, de lutter contre ce genre de fraude. Parce que même si tu envoies la photo, une photo en tout cas avec un numéro de série correct, ça ne prouve rien sur le produit que tu vas véritablement envoyer une fois que la vente est faite. Donc Et y a, on trouve, c'est pareil sur eBay, hein, tu peux trouver des trucs, ça a l'air pas cher, et puis tu te retrouves avec des AirPods qui n'en sont pas. Donc,
Je vais me permettre de rajouter, c'est vrai que quand on voit les produits sur Internet, vous savez que parmi mes nombreuses activités, j'assure aussi de l'accueil du public dans les salles de spectacle. Et il n'y a pas très longtemps, on a fait un spectacle de rap et on a eu plein de jeunes personnes qui avaient acheté des places sur Le Bon Coin, qui paraissaient être des places officielles. Et en fait, les faussaires utilisent maintenant des faux QR codes, c'est-à-dire qu'ils créent des faux QR codes. Et donc, du coup, les gens achètent en bonne foi une place de spectacle et en fait, le QR code est faux. Donc voilà, il y a toujours aujourd'hui moyen de frauder quand on veut vraiment frauder. Moi, je trouve ça plutôt positif si Le Bon Coin met ça en place. Ça évitera peut-être à des gens de se faire avoir.
Je salue Thibaut Bisson, notre copain du compte X Twitter at Apple TV plus FRA, qui nous a rejoint en cours de route. Salut Thibaut.
Salut, bonsoir.
Comment
Vous
vas-tu?
m'entendez?
Mais on t'entend très bien.
Parfait.
Ta solution est rodée maintenant. Hein.
Oui, alors pour l'enregistrement, je pense, mais je suis pas sûr.
Bon, tu t'enregistres, hein, tu sais.
Oui. Normalement, c'est bon.
Bon, Thibaut, puisque tu arrives en cours de route et qu'on parlait du Bon Coin, est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'acheter du matériel Apple sur le Bon Coin ou d'occasion? Et est-ce que tu
Non.
as fait attention à ce que ce ne soit pas de la contrefaçon?
Je fais attention, mais pour le coup, j'en achète pas. Donc,
Et pourquoi?
c'est...
Parce que tu as peur que ça en soit?
Non, parce que pour le moment, j'en ai pas eu besoin.
Tu achètes tout justement tes produits Apple?
Bah le Mac, il commence à être vieux, mais c'était Apple avec offre étudiante. L'iPhone, c'est de la descente dans la famille. Donc, quand il y a des changements, ça fait du reconditionné maison. Et sinon, bah, par exemple, les AirPods, c'était Boulanger qui avait fait une super promo et j'avais sauté dessus.
Ouais. Donc des revendeurs entre guillemets qui ont pignon sur
Pignon
rue,
sur rue,
ouais,
comme on dit.
C'est
C'est
ça.
ça.
Ou qui ruisselle.
Bon, Fabrice, je sais pas si t'as pignon sur rue, mais t'as serrure dans la porte, toi. Donc on va passer au test de la semaine pour que tu puisses nous raconter tes aventures ou tes mésaventures, je ne sais pas, avec cette serrure connectée Netatmo. Tu t'es lancé dans un chantier, un drôle de chantier. Eh ben écoute, raconte-nous parce que moi ça m'intéresse beaucoup.
Ben oui, donc Netatmo a annoncé il y a, alors ils en parlent depuis plus de 2 ans en fait, de faire une serrure intelligente, plus que serrure connectée. Et la différence, on va le
Pardon.
détailler. Non, non, mais eux-mêmes, je pense, quand on parle avec eux, des fois ils disent connectée quand même, et ça veut pas dire qu'elle est déconnectée. Il y a premier point, c'est-à-dire que c'est une serrure qui n'est pas connectée au réseau Wi-Fi de la maison, c'est pour ça qu'elle n'est pas connectée en soi, mais elle est quand même gérable depuis son smartphone, donc ça reste une serrure intelligente de ce point de vue-là. Alors, sans filet sous les yeux zébobies de la foule en délire, je vais essayer de partager mon écran pour vous faire partager quelques photos et on va voir si ça marche.
Ah.
Dès que je retrouve ce que je peux pour la fonction de partage d'écran que je ne trouve pas, voilà, ça
Mais
c'est
alors,
bien
pendant que
le
tu
test en
cherches,
direct.
tes images, moi, je voulais quand même te poser la question. C'était une envie que tu avais depuis longtemps, ça correspondait à un besoin ou c'est parce que c'est pas anodin de toucher à sa porte d'entrée. Enfin, je veux dire, c'est.
Non, 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 non. Alors, du coup, c'est intéressant de dire les potentiels avantages d'une serrure connectée ou intelligente. Et je vais en parler tout de suite. Décidément, je ne sais pas comment vous montrer ça dans les portes. Ah, si, c'est là. Voilà. Donc, l'intérêt, c'est que, voilà, normalement, vous voyez à
Ah
l'écran à
oui.
quoi ça ressemble. Donc voilà, l'intérêt, c'est que une serrure connectée ou intelligente, ça veut dire que déjà on peut la piloter avec son smartphone pour l'ouvrir ou la fermer. Donc ça veut dire aussi qu'on peut créer des invitations. S'il y a des gens qui viennent chez vous, on peut envoyer une invitation par mail ou par SMS ou bientôt RCS pour donner un accès à un local de manière temporaire, par exemple pendant une semaine ou des choses comme ça. Donc le fait
Hyper
d'avoir
BNB, quoi.
Airbnb, etc. Donc ça peut être adapté à ça. Et puis dans le cas de cette serrure, elle n'est pas la seule, mais Netatmo est connu pour ça, pour être très intégré à l'environnement Apple Home, ancien HomeKit. Et donc on peut aussi déclencher des actions par la serrure qui se déverrouille, qui se verrouille. Voilà. Donc ça faisait longtemps que j'avais envie d'essayer quelque chose comme ça, et des serrures connectées et ou intelligentes, il y en a beaucoup maintenant aux États-Unis. Il y en avait un peu moins en France. Je savais pas trop quoi choisir et avec quoi tester la chose. Et quand Netatmo a enfin choisi de sortir sa serrure, ça m'a intéressé tout de suite parce que c'est une marque qu'on connaît. Hein. C'est une marque qui existe depuis 2012, qui a été rachetée par Legrand, grand fournisseur de produits électriques. Donc c'est une marque dont la qualité est reconnue depuis longtemps et qui a une approche plutôt de qualité de ses produits. Donc ça m'intéresse pas mal de ce point de vue-là. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai voulu tester ça. Et donc pour ceux qui ont la chance d'avoir la couleur, voilà à quoi ça ressemble. Et pour juste continuer ce que je voulais dire, voilà le fil me revient, c'est que c'est fait par une entreprise française pour des utilisateurs français. Donc c'est compatible avec les cylindres français. Donc le cylindre sur l'image, c'est ce qu'on voit, c'est dans le cylindre qu'on insère sa clé pour faire tourner la serrure, pour déverrouiller ou verrouiller sa porte. Et donc l'installation de ce point de vue-là est conçue pour être assez simple, et il faut bien dire que c'est le cas, l'installation physique est simple. Une porte classique que, comme je montre maintenant, il y a une vis à l'intérieur de la porte, dans l'épaisseur de la porte. Il suffit d'enlever une seule vis et on peut ensuite faire glisser le cylindre en dehors de la serrure, et on a donc il y a une forme de très classique de serrure, et on peut ensuite insérer celle de Netatmo à la place. Et c'est tout, voilà. En gros, je schématise un peu, mais c'est vraiment facile à installer. Physiquement, c'est vraiment facile. J'insiste sur le mot physiquement parce qu'après, côté logiciel, c'est pas tout à fait pareil.
La serrure Netatmo, c'est pas juste le cylindre, on l'a vu là, il y a aussi...
Alors après, voilà, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ça
c'est avant ou après ça?
Là, c'est avant. Donc voilà, c'est l'intérieur de ma porte d'entrée, avant l'installation de la serrure Netatmo à l'intérieur. Donc on voit la forme du cylindre avec la fente pour la clé. Et quand on a installé la serrure Netatmo, voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Il y a une poignée assez grosse. Il faut imaginer une grosse poignée de porte. On n'a plus de trou pour la clé à l'intérieur. C'est remplacé par ce module qui fait à peu près 10 cm de long et 6-7 cm de diamètre. C'est circulaire. Parce que dedans, il y a quatre piles normes AA pour assurer l'alimentation de cette serrure.
Le moteur,
et,
quoi.
Et alors justement, il n'y a pas de moteur dedans. C'est un des choix de Netatmo, et c'est un des choix intéressants expliquer tout à l'heure. Ensuite, à l'extérieur, ça c'est avant, donc c'est la même chose, c'est un trou de serrure normal, et c'est remplacé par ça. Donc c'est un tout petit bouton qui dépasse un peu de la serrure, et dedans, alors là pour le coup, il y a un trou, on peut insérer, si on le souhaite, c'est pas obligatoire, mais on peut insérer une clé, une des clés fournies, il y en a trois qui sont fournies avec la serrure, qui ressemble à ça. Donc c'est des drôles de clés, parce que c'est en fait des petits cylindres qui font un petit peu moins d'un centimètre de diamètre. Mais il n'y a pas de dentelure, il n'y a pas de, ça pas, ça ressemble à une clé de loin. Hein, il n'y a pas de gravure, il n'y a pas de dent sur la clé, parce qu'en fait, la clé, on peut faire tourner la serrure grâce aux petites ailettes. Il y a des petites ailettes en haut du cylindre, donc quand on insère la clé, on peut ensuite faire tourner la serrure, parce qu'à l'intérieur de ce petit cylindre de la clé, il y a une antenne NFC. Donc la serrure va reconnaître la clé grâce à l'antenne NFC qu'on aura associée à la serrure par l'intermédiaire de l'application sur son smartphone. Donc c'est voilà à quoi ça ressemble. Hein. On remplace le cylindre, on a une grosse poignée de porte à l'intérieur avec la clé et le système électronique. À l'extérieur, on a un bouton assez petit pour tourner la serrure, pour la verrouiller, la déverrouiller. lorsqu'elle est en état d'être verrouillée, déverrouillée. Alors revenons justement sur ce niveau, sur cette histoire de moteur. Il n'y a pas de moteur à proprement parler dans la serrure pour verrouiller ou déverrouiller la serrure. C'est le choix de Netatmo d'avoir fait une serrure connectée, mais très manuelle. Donc là, on ne peut pas verrouiller ou déverrouiller la serrure à distance. Forcément, il faut le faire à la main, soit donc de l'intérieur en tournant la grosse poignée, soit avec la clé, si on en a une quand on est à l'extérieur, soit en ayant mis la serrure en état de verrouillage ou déverrouillage. Et c'est là qu'il y a une petite complexité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gros moteur pour verrouiller et déverrouiller la serrure, mais il y a un tout petit moteur, un écrou qui bouge à l'intérieur. Et lorsqu'on active la serrure, l'écrou se met en prise à l'intérieur de la serrure, et donc on peut tourner le petit bouton à l'extérieur de la porte pour verrouiller ou déverrouiller la porte. Et en état verrouillé, l'écrou se désengage, et donc le petit bouton qu'on voit à l'extérieur de la porte tourne dans le vide. Et c'est comme ça que la serrure reste verrouillée. Voilà. Donc il y a un tout petit moteur qui demande très peu d'énergie. C'est pour ça qu'avec 4 piles AA, on a une autonomie déclarée par Netatmo de 1 an. Naturellement, ça fait que 3 semaines que j'ai la serrure, je ne peux pas vous dire combien de temps ça dure. Mais les piles sont encore déclarées à 100%, par exemple, au bout de 3 semaines, alors que j'ai fait plein de tests avec. Voilà.
Bon, à la question, si tes piles tombent en rade et que tu ne les as pas changées parce que tu n'avais pas le temps et tu as oublié, qu'est-ce qui se passe?
Alors, c'est la question classique que je me suis empressé de poser aussi. Et naturellement, alors il y a une réponse qui est un petit peu... c'est un premier élément décevant, en fait, de ça. C'est-à-dire que je ne l'ai pas en photo là, mais pour ceux qui voient l'image, donc sous la petite poignée qui tourne dans le vide lorsque la serrure est désengagée, il y a un petit volet en fait qu'on peut faire pivoter et il y a une prise USB qui apparaît. Et à ce moment-là, on peut, avec une petite batterie externe par exemple, insérer l'USB et puis du coup, ça va donner un petit peu d'énergie à la serrure pour engager l'écrou interne et ensuite on pourra déverrouiller la batterie. Sauf que c'est un port micro USB, ce n'est pas un port USB-C. Et alors l'explication de Netatmo, c'est qu'il n'y a pas la place dans une serrure à la norme européenne pour mettre un port USB-C, mais il y a la place pour un micro USB. Alors, c'est un vrai problème, je trouve, c'est un vrai moins, parce que des ports micro USB, d'abord on essaye, on se bat pour essayer de faire disparaître tous les autres ports USB pour rester USB-C universel, et on n'y arrive pas, et eux non plus. Je suppose que dans une révision de la serrure, ils vont parvenir à mettre un port USB-C. Ce serait étonnant qu'ils n'y arrivent pas, mais ils ont évidemment, la serrure vient de sortir, ils vont pas me dire que la prochaine version elle sera mieux. C'est pas le moment pour eux de le dire.
Bah oui.
Voilà. En tout cas, donc il y a ça, il y a une solution de secours qui me paraît peu utilisable. Cela dit, le fait que les piles durent 1 an, ça veut dire qu'ils vont être capables de te prévenir très longtemps à l'avance que les piles sont à changer, au moins 1 mois a priori. Et c'est aussi pour ça, je leur ai spécifiquement posé la question, qu'ils conseillent de ne pas utiliser dans ce cas-là de piles rechargeables, parce que des piles rechargeables qui sont un peu usées, d'abord, ça ne délivre pas la même puissance, et puis c'est plus difficile de connaître véritablement leur état de charge avec précision.
Mais ça veut dire que pour changer les piles, il faut tout démonter?
Non. Alors pour changer les piles, ça c'est, on est, c'est pour ça le gros cylindre à l'intérieur, hein, celui qui fait à peu près une dizaine de centimètres de long. En fait, on peut dévisser le cache et on enlève suffisamment. Je pense que j'ai une photo qui montre ça. Voilà. Quand on enlève le cache, voilà ce qui se passe à l'intérieur, ce qu'il y a à l'intérieur de la poignée qui est à l'intérieur de la porte d'entrée, à un logement pour les 4 piles. Donc ça, on peut enlever le cache même lorsque la serrure est montée. On n'a pas du tout besoin de la démonter. On peut facilement enlever les piles.
Voilà. Juste question au reste de la bande. Est-ce que vous avez une serrure de ce type, haute marque potentiellement, parce que celle-là est toute récente, ou pas? Et est-ce que ça vous tente?
Alors, moi, ça me tend très bien, mais je n'y ai pas le droit parce que j'ai une compagne qui ne veut pas entendre parler de serrure connectée.
Donc, tu ne te sens pas en sécurité?
Ouais, en fait, la crainte de piratage, de problèmes de batterie, etc. Moi, c'est vrai que j'avais beaucoup de regarder du côté de la Nuki, qui propose des serrures connectées qui sont pas très très chères. Elles étaient en promo pendant le Black Friday. Mais voilà, donc si j'avais deux portes, je pense que j'essaierais d'en mettre une au moins sur une des deux portes. Mais là, en l'occurrence, sur la porte du garage, c'est pas possible. Donc voilà, c'est comme ça. Mais ça paraît pertinent. Et je pense aussi au côté Airbnb, c'est vrai qu'il y a beaucoup maintenant de petits coffres à clé là sur les entrées des maisons et compagnie. Ça a quand même le côté pratique de la carte virtuelle valable un temps et tout. C'est quand même super super bien pensé.
Ah ouais. Juste le Nuki, c'est pas la marque de Richard Gottener, non?
J'ai pas la blague. Pas la blague. Ça doit
il
pas
était
être
où le Yuki? Il était ça. Où le Yuki?
Pardon. aparté. Ok, donc alors installation, donc tu dirais. T'as mis combien de temps?
L'installation physique,
c'était
ça
galère ou pas? Tu dirais que ça a été une galère?
Non. L'installation physique, c'est vraiment facile. Je montre une dernière photo pour ça. Toutes les portes n'ont pas la même épaisseur. On peut installer une serrure Netatmo de ce type sur des portes qui font jusqu'à 10 cm d'épaisseur. Et il y a des adaptateurs qu'on peut. Il y en a deux dans la boîte et on peut en acheter d'autres un peu plus longs qu'on voit ici pour rallonger le cylindre pour que ça soit compatible avec la porte si on a une porte qui fait moins de 10 cm. Il y a tout ce qu'il faut sur le site web de Netatmo pour savoir comment calculer la bonne épaisseur. Etc., pour voir si la serrure est compatible. Ça, pour l'installation physique, c'est facile. Pour l'installation logicielle, pardon Gilles.
Non, le donjon de François, donc ça passe, les portes bien épaisses.
Après l'installation logicielle, donc il y a une application Netatmo qui s'appelle Home plus Security, qui s'appelle comme ça, je crois, même sur le store français, pour gérer tout ça. Donc il faut alors tout ça et c'est quand même très sécurisé. C'est ce qui m'a intéressé aussi dans la série Netatmo, c'est qu'ils ont un discours et une procédure de sécurité très 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 fort. Donc par exemple, alors du coup je mets mon doigt là où il faut quand même pour pas montrer tout, mais je vais montrer, on est peut-être en petit, je sais comment montrer ça, il y a dans la boîte livrée, il y a ce que je montre là, il y a une clé de propriété, une carte de propriété, alors dans toutes les serrures un petit peu haut de gamme, il y a des cartes de propriété qui permettent de refaire des clés, là c'est pas tout à fait la même chose, la carte de propriété d'abord montre un QR code pour le HomeKit Apple Home, puisque cette serrure est compatible avec. Et puis, il y a aussi un autre petit cylindre sans les ailettes qui représente la clé privée, en fait. On parle là, c'est vraiment comme sur le modèle de cryptographie. La clé privée, c'est ce qui permet de montrer à la serrure qu'on est propriétaire de la serrure. Et donc, on peut insérer ça aussi dans le trou à l'extérieur de la serrure on s'en sert souvent pour faire de l'installation pour reconnaître les clés, pour remettre à zéro la serrure. Si on perd cette carte de propriété, ce petit cylindre, Netatmo ne peut rien pour nous. C'est quelque chose vraiment à garder. Ils ne peuvent pas la reproduire, ils ne savent pas ce que c'est. C'est aussi un aspect de sécurité assez intéressant. C'est-à-dire que un serrurier ne peut rien faire avec ça et Netatmo non plus. Voilà. Donc il y a un côté très sécurisé qui rend du coup l'installation logicielle un petit peu complexe parce que il faut insérer cette carte de propriété plusieurs fois. L'intégration avec HomeKit est des fois un petit peu compliquée parce qu'il faut aussi le faire. C'est censé être reconnu automatiquement. Avec moi, ça n'a jamais marché automatiquement. Il a fallu que je refasse pas l'installation complète, mais que je fasse une petite démarche supplémentaire pour faire reconnaître ça dans HomeKit, dans l'application maison. Donc il y a un côté très c'est toujours pareil hein, la sécurité c'est un compromis, plus c'est sécurisé plus c'est agaçant à faire et quand on fait quelque chose de très pratique et ben c'est forcément moins sécurisé. Donc de ce point de vue là c'est plutôt pas mal. Ils ont aussi ils insistent beaucoup sur la norme, alors j'y connais rien dans les normes de serrure, alors ils insistent sur la norme EN quelque chose, mais avec les matériaux utilisés, le fait que c'est anti-crochetage, anti-effraction parce que ça résiste à ceci cela. J'ai pas d'avis là-dessus, j'ai aucune compétence sur le sujet, mais ils sont à la norme, une des normes assez élevées en termes de serrure. Donc pour la sécurité, ça me paraît pas mal. Le fait que ce soit des clés électroniques, même ces clés-là, ce que j'aime bien aussi dans cette serrure-là, donc c'est que c'est, une fois que c'est installé et que ça marche, ça peut fonctionner comme une serrure classique. C'est-à-dire qu'on peut oublier finalement qu'elle est connectée, et on utilise une clé pour rentrer chez soi. Voilà, une clé comme je montre, donc cette clé qui n'a pas de dents, mais qui pourtant est unique. Donc on fait une clé pour chacun des membres de la maison, par exemple, et on rentre chez soi en déverrouillant avec la clé, et quand on sort, on verrouille avec la clé. C'est vraiment un usage très traditionnel, et du coup, ça, je trouve ça pas mal de ce point de vue-là. L'intérêt, c'est que si on perd la clé, alors par rapport à une serrure traditionnelle, c'est pas grave, on n'a pas besoin de changer de serrure, on peut juste désactiver la clé. Et ça reste très sécurisé. Mmh. Et dans un environnement semi-pro, je trouve que c'est peut-être un des intérêts de cette serrure-là. Je ne vais pas aller trop loin, mais c'est un environnement semi-pro. C'est intéressant de savoir que une serrure peut gérer jusqu'à 300 clés et une clé peut ouvrir jusqu'à 80 serrures. Mmh. Et donc là, on voit bien que c'est aussi intéressant, même si éventuellement on a une grande maison, on a deux portes d'entrée ou on a une porte d'entrée puis une autre porte qu'on veut sécuriser quand on n'est pas en ville, des fois on a, je sais pas, une dépendance, quelque chose comme ça, on peut avoir, donc on met deux serrures, mais on n'a qu'une seule clé pour ouvrir le tout. Le côté Airbnb qu'on a évoqué, c'est vraiment intéressant parce que on peut aussi soit on peut proposer malgré tout une clé dans une boîte à clés comme on le fait, et puis si l'hôte part avec la clé, bah c'est pas grave, tant pis, on aura perdu 40 euros, c'est le prix d'une clé, mais on n'a pas besoin de changer la serrure, ce qui n'est pas forcément le cas si on a une serrure classique. Et puis donc on peut envoyer, et c'est relativement simple, on envoie donc une invitation pour une heure ou pour une semaine à partir d'une date jusqu'à telle date, et la personne qui reçoit ça doit installer une application Netatmo qui s'appelle Home Plus Guest, mais il n'y a pas besoin de créer un compte chez Netatmo. Une fois que l'application est installée, on appuie sur le lien de l'invitation et l'application sera capable d'activer et désactiver la serrure pour pouvoir rentrer ensuite sans clé, donc sans clé physique. Voilà.
Alors, j'ai quand même besoin de te poser la question de la protection contre le piratage, etc. Qu'est-ce qui peut arriver de pire si on te vole ton iPhone, si on te pirate ton iPhone?
Qu'est-ce qui peut arriver? Bien sûr, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? C'est la même chose, c'est toujours pareil finalement. On en parlait aussi avec les mots de passe et autre chose. On stocke ses mots de passe dans son téléphone. Donc, si on se fait piquer son smartphone et que on connaît, que le voleur connaît le mot de passe, le code de verrouillage de l'iPhone, ben, il a accès à tout, y compris donc à la porte d'entrée.
Est-ce qu'il y a un moyen d'intervenir d'une autre manière pour empêcher que quelqu'un rentre chez soi, par exemple?
Alors, si on se fait piquer son iPhone, oui. Alors, l'autre truc, c'est qu'on peut rendre propriétaire de la serrure plusieurs personnes. C'est ce que j'ai fait chez moi, par exemple. Donc, si je me fais piquer mon iPhone, mon épouse pourra désactiver les clés ou justement désactiver la serrure pour que mon iPhone ne puisse plus l'ouvrir, ce qui m'empêchera pas ensuite...
Sauf s'ils le font avant toi.
Ah, voilà. Sauf s'ils le font avant moi. Mais alors c'est là que c'est peut-être aussi intéressant le choix de Netatmo de ne pas avoir fait de serrure déverrouillable à distance. Il faut que le voleur il soit sur place. C'est pas relié au Wi-Fi.
Ah oui, oui, c'est intéressant ça.
D'accord. C'est un compromis. On peut donc aussi choisir de ne pas installer sur son téléphone de quoi l'ouvrir. Finalement, c'est possible à vrai dire. Hein. Si une fois qu'on a, on peut avoir par exemple, on peut imaginer, on a un iPhone qui va servir à la mise en place, à l'installation de la serrure, mais c'est un iPhone qu'on ne prend pas avec soi en dehors. C'est juste pour l'installation, la configuration. Et on ne se sert pas de son iPhone pour déverrouiller la serrure si on ne veut pas. On garde la clé.
Bon, c'est un test. Alors, il nous faut le prix de la chose.
Alors voilà.
T'es plus, t'es moins, puis une note sur 5.
Et donc, alors le prix de la chose, c'est pour ça que j'avais aussi, il me semble, commencé un peu par ça. C'est une des serrures les plus chères du marché. Ça coûte 380 euros.
Ouais.
Donc, c'est pas rien. 380 euros, on a pour 380 euros donc trois clés livrées avec, la clé de propriété naturellement, et deux embouts pour allonger le cylindre si besoin. Les plus, les moins, voilà ce que j'en pense. Donc, je trouve que parmi les plus, il y a un vrai soin à porter la sécurité. Ils ont quand même pensé à plein de choses, notamment donc la communication entre le smartphone ou l'Apple Watch. D'ailleurs, ça, on peut le déverrouiller avec l'Apple Watch. Moi, je trouve ça bien pratique. C'est en Bluetooth sécurisé, ceci, cela, avec une des attaques du Bluetooth qu'on a vu sur des serrures connectées de voitures, c'est qu'il y a un truc, un piratage qui s'appelle le rejeu, c'est-à-dire on écoute la séquence Bluetooth pour ensuite la renvoyer à la voiture pour déverrouiller quand t'es pas là. Sauf que là, ça marche pas, et les voitures qui ont aussi rectifié ce problème, c'est-à-dire que la séquence Bluetooth pour ouvrir ou fermer change à chaque fois. Elle est à usage unique. Donc ça marche pas. Donc le soin apporté à la sécurité me paraît très, très élevé, ça, j'aime bien ça. J'aime bien aussi, parmi les plus, l'utilisation familière. Donc on a quand même des clés, si on veut utiliser des clés, les clés fournies, bah, ça marche très bien. L'autonomie, j'ai mis ça parmi les plus, alors c'est de l'autonomie déclarée, mais je pense que c'est le fait qu'il n'y ait pas de moteur véritable dans la serrure, je pense que c'est un bon point aussi pour l'autonomie. Donc même si on part un mois en vacances, on risque quand même très peu d'avoir un problème en rentrant. Et puis donc le partage d'une clé à distance, ça, c'est d'envoyer ça par SMS ou par mail, ça c'est vraiment pas mal. Parmi les moins, du coup, CNET Atmos, ça marche bien avec Apple, mais ça va marcher moins bien avec Android. Il va y avoir moins de fonctions, ce sera pas intégré à grand chose. J'ai quand même trouvé l'installation.
Ça veut dire qu'à la maison, faut tous avoir un iPhone?
Non. Non. Si on a l'intérêt, c'est que ça peut être intégré à des scènes et des raccourcis dans l'application maison, par exemple, pour allumer une lumière quand on déverrouille la serrure. C'est intéressant, par exemple, de faire ça. C'est malheureusement un peu sur le papier. Pour l'instant, là, j'ai trouvé l'intégration assez peu fiable dans Apple Maison, mais peut-être que ça va s'améliorer. En tout cas, il y a un peu plus de fonctions quand même. L'installation donc physique est simple. L'installation logicielle, j'ai trouvé assez complexe. Donc ça, faut être un petit peu mordu quand même pour le faire. Donc il y a cette fameuse prise micro USB à l'extérieur et pas USB-C. Ça, c'est un vrai problème. Je pense qu'il faut vraiment qu'ils trouvent une solution pour ça. Parce que si jamais on se retrouve dans la situation où les piles sont mortes, avoir trouvé un câble USB-C quelque part, si on est dimanche soir, c'est plus facile qu'un câble micro USB, quoi. Voilà. Et puis le dernier point négatif. Non, exactement. Le dernier point négatif, bah, c'est le prix, voilà, parce que c'est quand même 380 €. Une serrure de très bonne qualité, une serrure classique de très bonne qualité de marque genre Bricard, par exemple, ça coûte 200 €, avec 5 clés. Donc c'est assez cher. Voilà ce qu'on a quand on prend un matériel Netatmo, malgré tout. Voilà. Donc la note, j'hésite entre, parce que je triche toujours dans ces cas-là, entre 3,5 et 4, parce que je trouve que c'est très bien fait. Je peux pas mettre 5 à cause du prix, à cause de ce que je viens de dire en termes des moins, mais je trouve que c'est bien conçu et peut-être pour répondre en partie au questionnement de la compagne de François, je trouve que c'est pas mal en termes de sécurité. J'ai plutôt confiance, quoi. Voilà, dans la manière dont c'est fait et tout ça. Voilà, voilà pourquoi j'ai envie de mettre 4 quand même sur 5, parce que c'est, je pense que c'est un bon produit qui peut durer, qui a le potentiel de fonctionner pendant des années, quoi. Il y a plein d'avantages.
Et donc, question subsidiaire, est-ce que tu vas démonter ta porte ou est-ce que tu vas la garder?
Bah, je sais pas trop. Là, pour l'instant, c'est une serrure qu'on m'a prêtée. Donc, je vais avoir des invités pendant les vacances de décembre. Alors, ce sera intéressant de voir aussi, de continuer le test avec le partage de clés virtuelles, justement, pendant quelques temps, pour voir comment ça fonctionne en vrai. Et puis, je vais voir un peu ensuite, est-ce que je vais en acheter une pour moi. Bah, je vous dirai quand ce sera le cas. Je sais pas. Bon, le test continue.
Merci Fabrice. Thibaut, est-ce que tu mettrais une serrure intelligente sur ta porte?
Non, je pense pas.
Alors, qu'est-ce qui te dissuade?
Bah, pour le moment, l'environnement HomeKit ou maison connectée m'attire pas plus que ça. Donc, si éventuellement un jour passer la maison en connectée ou ce genre de truc, d'accord, mais là, pas plus que ça.
Bon,
c'est pas un domaine qui m'attire trop.
Tu vas attendre un petit peu. Merci Fabrice pour ce test. Grand plaisir de voir le test revenir dans iWeek la semaine Apple. On passe à nos cartons jaunes, rouges ou à nos coups de cœur. Alors, j'ai besoin de voir les mains levées. Je ne sais pas qui a quelque chose à nous proposer. Je vois Fabrice qui lève la main. Est-ce que Gilles ou François, vous avez quelque chose pour nous ? François, non. Gilles, non. Bon, vous étiez trop occupé à faire vos courses pour le Black Friday. OK. Thibaut, tu as ? Allez.
J'ai un petit truc.
Allez, on commence par toi alors.
Ça commence à dater un tout petit peu, mais je vais rester sur les séries. J'avais beaucoup aimé la petite série d'animation d'Apple TV+, Strange Planet, que en fait...
Je l'ai raté complètement. Hein.
Ouais, ben, en fait, elle est passée un peu sous les radars. Ouais. Déjà parce que c'est de l'animation sur Apple TV+, donc déjà, mauvais point pour elle. Et j'ai lancé un petit peu par hasard. C'est 10 épisodes, c'est pas très long. Et je l'ai regardé en VF et j'adore parce que c'est un phrasé très soutenu d'une façon qu'on n'entend quasiment jamais. C'est des petits aliens en fait. Et du coup, c'est très particulier. C'est un langage qu'on n'entend jamais et du coup, c'est assez plaisant. En tout cas, c'est assez marrant. Et ouais, moi, ça m'a bien fait marrer de voir ces petits aliens bleus qui parlent d'une façon complètement loufoque qu'on n'entendrait jamais dans la rue en fait. Donc voilà.
Ok, rappelle-nous le nom de la série.
Strange Planet.
Strange Planet. Fort bien. Merci Thibaut. Fabrice, coup de cœur ou carton ?
Coup de cœur pour Voice ChatGPT. Donc depuis quelques temps, c'est pas tout à fait nouveau, mais enfin ça fait quelques semaines à peine. On peut installer de l'application ChatGPT sur son iPhone, ça fait longtemps, mais on peut utiliser le dialogue, on peut l'utiliser à la voix. Gratuitement, on a besoin d'un compte chez ChatGPT, chez OpenAI, mais on n'a pas besoin de payer. On peut utiliser gratuitement la fonction de dialogue, et je trouve que c'est vraiment bluffant, c'est vraiment intéressant, et ça donne c'est vraiment une autre façon d'utiliser l'intelligence artificielle que de faire un dialogue à la voix avec elle. Quelques petits exemples rapidement, mais enfin, on a vraiment l'impression d'un Siri qui comprend. Voilà, c'est ça que ça veut dire. jusque-là, on se moque régulièrement, et moi le premier, de Siri qui comprend pas tout. Du coup, la version gratuite repose sur ChatGPT 3.5, donc c'est pas le plus intelligent des ChatGPT, mais ça fait déjà tellement mieux que Siri en termes de compréhension. Et aussi, je pensais à... On se rappelle, on avait parlé de l'abonnement Apple Music uniquement pilotable à la voix. Et quand on l'utilise en français et qu'on donne des titres en anglais, c'est difficile à... Enfin, Siri comprend pas, en fait. Alors que là, oui, j'ai fait quelques essais en utilisant... On peut parler en français ou en anglais, en fait. Il y a peut-être d'autres langues, j'ai pas fait attention à ça. Ce sont les deux langues que j'utilise, et l'appli reconnaît la langue, et même en mélangeant. Donc, j'ai demandé des informations en... Donc, je parlais français, et je voulais avoir des informations sur la série de télé The West Wing, et il n'y a pas de problème. Et ça m'a répondu en français, en utilisant aussi le phrasé The West Wing pour me donner quelques informations. Donc ça fait aussi quelques erreurs. J'ai aussi demandé des informations historiques sur une basilique dans la ville dans laquelle j'habite. Et il m'a dit dans la même phrase, il n'y a pas de basilique qui s'appelle comme ça dans ta ville, mais voici des informations sur la basilique qui s'appelle comme ça dans ta ville. Donc ça, c'est typiquement ChatGPT, et peut-être que la ChatGPT 4 est un peu meilleure pour ça. Mais après, c'est rigolo.
C'est souris d'ailleurs.
Après, le truc, c'est que c'est un vrai dialogue. Et donc, je lui dis, tu sais que tu m'as dit une bêtise quand même, parce que dans la même phrase, tu m'as dit qu'il n'y avait pas d'informations, puis tu m'as quand même donné des informations. Et il me répond tout de suite, ah, pardon, je me suis trompé, je m'excuse. Voici donc les informations que tu m'as demandées. Et donc, c'est un vrai dialogue, et c'est un truc qu'on ne peut pas avoir avec Siri. Voilà. Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Et comme c'est gratuit, j'invite tout le monde à essayer ça. C'est d'installer l'application ChatGPT d'OpenAI. Faites bien attention sur le store de bien choisir la bonne, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui essayent de se faire passer pour cette application-là, c'est pas la bonne. Mais une fois que vous avez celle-là, essayez le dialogue avec l'intelligence augmentée, je trouve ça vraiment bluffant.
Eh ben moi aussi, j'ai un petit coup de cœur à partager avec vous. Ça va t'intéresser, Thibaut, parce que c'est une série que j'ai découverte un peu par hasard sur Apple TV+, là, il y a quelques jours. C'est avec Jennifer Garner. C'est la dernière chose qu'il m'a dite. C'est l'histoire oui. d'une femme dont le mari disparaît sans prévenir. Et en fait, elle va commencer l'enquête pour essayer de le retrouver. Elle va se rendre compte que ce n'était pas du tout l'homme qu'elle croyait connaître. C'est en 7 épisodes. Et c'est très très chouette. Voilà. Si vous commencez, je vous mets au défi de l'arrêter en cours de route. Voilà. Si vous ne savez pas quoi regarder, parce que c'est vrai qu'il n'y aura pas grand chose à se mettre sous la dent au mois de décembre, je vous conseille la dernière chose qu'il m'a dit. Tu l'as vu, Thibaut ?
Non, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu, non. Je ne sais conseille. Plus exactement quand est-ce qu'elle est sortie. Ouais.
Je te ouais, conseille oui. vraiment très très bien. Tu l'as vu, Fabrice ?
Oui, j'ai regardé. Ouais, j'ai trouvé ça très chouette.
Ah, c'est
ouais.
bien. C'est bien, ouais.
Moi, je me souviens de Jennifer Garner dans Alias, quand même, la série qui passait sur M6, je ne sais pas si vous vous souvenez.
Oui, bah c'est mieux.
Oh, la première saison était bien.
Oui, bah voilà. Après, c'est partait mieux. Tellement en vrille dans n'importe quel sens que voilà.
Voilà. Et elle a un rôle un peu plus consistant que dans Top Gun Mavericks, ou Top Gun tout court d'ailleurs. Donc
je mais c'est pas Jennifer
vraiment...
Garner qui joue dans Top Gun Maverick ?
Bah si.
Ben non.
Bah, comment ça, bah non ?
Ah non, non, c'est pas Jennifer Garner, non.
Ah bah c'est pour ça ?
Bah oui.
Alors, mais c'est qui alors ?
Je me souviens pas, malheureusement, mais...
attends, je peux pas rester là-dessus, non, c'est pas possible, je peux pas...
Ah non, non.
Non, attends, je vais
en attendant, pendant que vous cherchez... J'ai une devinette.
C'est Jennifer Connelly.
Jennifer Connelly.
Mais
voilà.
Oui. Mais c'est, elles alors... ont le même prénom.
Oh, bah oui.
Arrête de dire des Connelly. Aussi.
Quelle idée. Arrête de ça. Ah, on peut pas. Vous êtes vraiment pas sortables, les garçons. Voilà, c'était l'épisode 164 d'iWeek, la semaine Apple. Merci de votre fidélité. Si vous aimez ce rendez-vous, abonnez-vous aussi à notre nouveau podcast iWeek Express sur toutes les plateformes. C'est gratuit aussi. Et puis, on compte sur vos notes 5 étoiles hein, pour les deux podcasts. On en a besoin. Et on compte aussi sur vos avis sur Apple Podcasts pour donner envie à d'autres. Merci les amis. La team presque au complet. Gilles Dounès, Elia Bitball sera là la semaine prochaine, j'espère. Gilles Dounès, Fabrice Neumann, François Letruédic et Thibaut Bisson. Merci à tous les quatre d'avoir été là, les amis. C'était un grand plaisir. Suivez-nous sur les réseaux. Blue Sky, donc, désormais, pour de vrai, n'est-ce pas, Gilles, @iweeknews.besky.social. On est encore sur X, ex-Twitter, @iweeknews. Vous nous retrouvez aussi sur Mastodon, @iweeknews@mastodon.world. Partout, un seul hashtag, @iweeklsa. La bonne adresse à savoir aussi, c'est patreon.com/iweek pour rejoindre la communauté, profiter des avantages, des bonus et surtout nous soutenir. C'est quand même très, très important pour nous. Cet épisode, on souhaite aussi le dédier à Frédéric Cavaillé, l'un de nos premiers auditeurs. Et Fred, eh ben, on est très triste parce qu'il s'est éteint il y a quelques jours. Fred, cet iWeek que tu aimais tant et dont tu ne ratais pas un seul épisode, on le sait, eh bien on te le dédie, il est pour toi et on envoie toutes nos pensées à tes proches et notamment à ta femme. Voilà, à très vite pour la suite, à tout moment avec iWeek Express, soyez prêts. Et donc à la semaine prochaine pour l'épisode 165. Salut les amis.
Bye bye.
Salut.
À très vite.